Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour à tous.
Et bienvenue à Trou de mémoire, un balado sur l'histoire et les effets du racisme et de la colonisation. Rien que ça.
C'est un projet ambitieux, peut-être un peu trop pour nos moyens, qui aborde l'héritage de la colonisation européenne depuis 1492 jusqu'à nos jours. À travers trois parties de quatre épisodes chacune, on se penche sur l'avènement et l'évolution du concept de race, l'expérience des colonisés et l'exploration de ces thèmes dans le contexte canadien.
Avec vous aujourd'hui, un binôme composé du pire cauchemar de tous les parents, une étudiante en histoire de l'art, et du plus grand rêve de ceux-ci, un étudiant en médecine. Au-delà de cette opposition radicale, on partage quand même une passion effrénée pour la littérature, l'histoire et bien entendu la cuisine algérienne. Ceci est l'épisode 1 d'une série de 12. Pour ce premier épisode, on a choisi le titre « Et Dieu créa la race ». Parce qu'avant de devenir un concept scientifique boiteux, avant d'être utilisé pour justifier l'exploitation de peuples dans les colonies, et avant les discours haineux sur Internet, l'idée de race a commencé sa longue gestation au Moyen Âge. Premièrement dans un conflit entre religieux sur le sort à réserver à ceux qui n'étaient pas chrétiens.
Ouais, aussi connu sous le nom de juifs.
Notre récit commence donc en 1492, où l'on assiste au soulèvement de conceptions racistes lors de la rencontre entre la caravelle de Christophe Colomb et le continent des Amériques. En choisissant de faire commencer notre chronologie à cet épisode bien précis, on tente ici de s'opposer, entre autres, à l'idée selon laquelle le racisme aurait toujours existé et n'aurait pas réellement de genèse précise. Au fait, on tient à dire, si jamais il y a des PhD qui nous écoutent...
Mais on espère que non, quand même.
On espère que non, ce serait un peu triste pour vous. Mais on tient à le dire que les études qui retracent le racisme vont jusqu'au Moyen-Âge dans certains discours et écrits religieux, et on est très conscient de ça. Seulement, on utilise quand même la date de 1492 par souci de clarté et de concision, mais aussi à cause de son importance politique pour la question coloniale.
L'histoire du racisme est marquée par le contexte de la fin de la Reconquista espagnole, où les rois catholiques mettent un terme à une guerre de plusieurs siècles contre les musulmans d'Andalousie. La même année, Colomb arrive en Amérique, envoyé sous l'ordre des souverains espagnols, et « découvre », entre énormes guillemets, un territoire et des peuples complètement inconnus. La réalisation que des territoires et des peuples étrangers à la perception européenne existent choque les consciences. De plus, les violences et l'exploitation envers les populations autochtones, qui commencent dès l'arrivée de Colomb et se poursuivent sous les administrations coloniales subséquentes, créent une onde de choc et un scandale en Europe. Cela atteint de telles proportions que l'empereur Charles Quint fera passer des lois radicales sur la gestion des colonies, ce qui aboutira en 1550 à une conférence à Valladolid, en Espagne. C'est là que l'on verra se manifester la proto-racialisation envers les autochtones des colonies espagnoles en Amérique du Sud.
Dans cet épisode, nous allons donc traiter de ce qui est peut-être l'une des plus importantes querelles de clocher de l'histoire occidentale. On va essayer de décortiquer le contexte socio-historique dans lequel est vécue l'arrivée des chrétiens en Amérique et le choc autour de la rencontre avec un nouveau peuple. On va ensuite se pencher plus spécifiquement sur la controverse de Valladolid elle-même afin de comprendre quelles étaient les deux positions opposées qui s'y sont confrontées. Finalement, on fera le bilan de tout cela pour mettre en évidence les conséquences concrètes de cette conférence pour la postérité.
Avant de commencer, on aimerait préciser qu'on a choisi de parler dans les quatre premiers épisodes du rapport des Européens aux peuples colonisés et non du rapport des peuples colonisés aux Européens, parce qu'on discute ici de la genèse du racisme qui est, comme on va le voir dans les épisodes, un construit européen.
Comme c'est courant dans l'histoire européenne, on commence avec une bonne guerre. Ici, on parle de la guerre de reconquête espagnole, aussi connue sous le nom Reconquista, qui est achevée en 1492 sous la gouverne de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. C'est une guerre de très longue haleine qui, bien qu'elle fût gagnée par les chrétiens, a coûté excessivement cher. Donc, pour renflouer les coffres de la couronne, Ferdinand et Isabelle vont mettre en place dès 1478 une petite politique publique locale pour que tous et toutes contribuent de manière équitable aux bonnes finances du royaume. La politique est la suivante. Tout juif ou musulman resté dans les territoires catholiques se verra accusé spontanément d'hérésie et sera condamné, sans procès, à la torture et ou à la mort, au choix. De plus, ses biens seront saisis au profit de la couronne sans aucun préavis. Ce serait trop gentil sinon.
Ouais, très équitable, effectivement.
Et c'est ce qui se sera nommé iconiquement l'Inquisition espagnole. Nobody expects the Spanish Inquisition. Dans les faits, le royaume espagnol avait déjà expulsé la majorité des musulmans et des juifs, et ce restant avait été pour la plupart forcé de se convertir au catholicisme. On faisait donc la chasse à ces nouveaux chrétiens qu'on suspectait de toujours pratiquer leur ancienne religion en secret. Cette suspicion était tellement importante que l'on retrouvera dans les lois de la couronne une interdiction de charges publiques ou cléricales à toute personne dont au moins un grand-parent avait été trouvé juif, musulman ou hérétique. Divulgachage pour l'épisode 3, c'est le même genre de politique qui sera appliqué par les nazis dans les lois de Nuremberg. Ce genre de politique faut le dire, existait déjà dans les administrations musulmanes andalouses des siècles précédents. Mais la particularité qui nous intéresse ici dans les lois catholiques, c'est l'importance qui est accordée à la lignée et au sang. Il y a donc une distinction fondamentale qui se crée entre les anciens et les nouveaux chrétiens, et une importance accrue accordée au sang, à la lignée.
C'est un peu la vibe des fans OG de Metallica, que quand Metallica a joué dans Stranger Things, ils étaient tous offusqués parce que là, soudainement, tout le monde aimait Metallica, puis ils n'étaient pas des vrais fans.
C'est un bon exemple. Mais dans le contexte de la Reconquista espagnole au 15e siècle, la composition du sang d'un individu va gagner une connotation morale par rapport au caractère de cette personne. Donc, ce n'est pas juste le goût de musique qui est mis en cause ici, c'est vraiment ta capacité à être un être humain normal. Et c'est donc une forme de proto-essentialisation qui va se créer à travers cette obsession de la pureté du sang. L'autre façon qui se retrouvait par Isabelle, Ferdinand et leurs successeurs pour se faire une passe de cash rapide et étendre leur royaume, ce sera de conquérir les territoires en Afrique du Nord et en France. Et donc, en 1492, la même année de la victoire chrétienne contre les musulmans, on va envoyer un petit gars qui s'appelle Christophe Colomb pour trouver une nouvelle voie vers les Indes afin d'avoir un meilleur accès aux richesses qu'on anticipe pouvoir composer le cinquième des revenus du royaume. Donc, ce n'est pas juste un petit projet sur le côté. On veut vraiment renflouer énormément le trésor public grâce à ça. Alors, quelle ne sera pas la surprise des Européens quand ils vont découvrir que c'est pas vraiment l'Inde qu'ils ont trouvé, mais un tout nouveau continent. La « découverte » entre grands guillemets des Amériques va vraiment être vécue par ces Européens comme un énorme choc de perception par rapport à leur vision du monde et leur vision d'eux-mêmes, parce qu'ils sont alors obligés de redéfinir toutes leurs notions de conscience spatiale, comme par exemple ce qui constitue désormais la grandeur, le proche, le loin. Aussi, et de manière plus fondamentale, ils doivent reconsidérer leur propre relation au territoire et à leur centralité dans le monde. Donc, la cartographie, par exemple, au XVIe siècle, elle va s'établir en opposition avec les notions issues de l'Antiquité qui régulaient les rapports géographiques jusqu'alors. Pendant que la perception de la Terre habitable était, jusqu'au XVIe, un petit territoire entouré d'énormément d'eau, les cartes géographiques se remplissent petit à petit de territoires préalablement inconnus. Et donc, cette dichotomie, opposition, mise de l'avant entre les connaissances limitées des anciens et celles plus universelles des modernes, participe ainsi à l'entrée des consciences dans ce qu'on va nommer la période moderne. Ici, par période moderne ou monde moderne, ce qu'on veut entendre, c'est le début de l'utilisation vraiment marquée de la raison comme moteur des sociétés européennes, ce qui sera par la suite utilisé comme un marqueur de distinction avec les autres sociétés dans le monde.
Donc, maintenant, après avoir établi ce contexte autour de 1492, on peut maintenant s'attarder au vif du sujet, soit la rencontre elle-même entre Christophe Colomb et les Autochtones d'Amérique du Sud. La révélation de l'existence de ces nouveaux peuples, qui sont, comme on l'a dit, complètement inconnus des Européens de l'époque, est aussi vécue comme un grand choc. C'est important de noter qu'à cette époque en Espagne, les musulmans et les juifs ne sont pas pour les chrétiens des populations qui sont considérées comme exotiques et étrangères et qui dansent le baladi avec un foulard et des serpents en étant high sur l'opium.
Ouais, non, c'est plutôt comme le voisin gossant qui monte pour des raisons que tu comprends pas trop, une espèce de cabane sur son balcon, puis là, ça ruine l'esthétisme du bâtiment. Fait que tu vas jusqu'en cour d'appel pour essayer de contester le fait qu'il veut fêter sa fête religieuse.
C'est plutôt des populations connues par les chrétiens espagnols, puisque les trois communautés religieuses ont coexisté sur le territoire de la péninsule ibérique. Donc, la péninsule ibérique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'Espagne et le Portugal, et ce, pendant 7 siècles. Les Européens ont aussi des relations diplomatiques, militaires et économiques avec les Ottomans et même certains peuples africains, par exemple, depuis plusieurs siècles. La véritable différence qui se crée ici avec les Autochtones d'Amérique est l'exotisme et l'inconnu. On ne connaît rien sur le mode de vie, ou sur les coutumes, ni même sur l'existence de ces nouveaux peuples lorsque l'on réalise, au tout début du 16e siècle, qu'il s'agit effectivement d'un nouveau continent. Donc, les représentations de ce nouveau peuple commencent dans des gravures dès 1493, donc seulement un an après l'arrivée de Colomb. Elles accompagnent une lettre que Colomb écrit au roi d'Espagne, comme on l'a dit, qui s'appelle à cette époque Ferdinand d'Aragon, pour lui décrire ce qu'il a pu observer dans les nouveaux territoires récemment explorés. Dans cette lettre, Colomb décrit sa rencontre avec les Autochtones, qu'il dépeint comme pacifique, docile et non violent. Il indique aussi que les Autochtones ont d'abord été craintifs par rapport aux Européens, en prenant la fuite, par exemple. Et tout ça, ça lui a permis de conclure que les Autochtones seraient faciles à conquérir, puisqu'ils semblent avoir l'esprit d'enfant. À l'inverse, lors de l'arrivée d'Amerigo Vespucci sur les côtes du Brésil en 1501, on découvre que les Autochtones du Brésil ont des pratiques cannibales dans le cadre de rituels sacrés. Et évidemment, ces pratiques offusquent les pauvres catholiques et sont rapidement associées aux Autochtones d'Amérique dans leur généralité, dans les mentalités européennes. Donc, tous les Européens se mettent à associer le cannibalisme à tous les Autochtones d'Amérique. On assiste donc ici à la création des deux grands types d'essentialisation sous lesquels seront placés les Autochtones. Donc, d'un côté, il y a le bon sauvage et de l'autre côté, il y a le barbare violent. Or, les graveurs eux-mêmes n'ont jamais personnellement été en Amérique et ne font qu'illustrer les lettres de Colomb ou de Vespucci, ainsi que d'autres textes qui sont parfois apocryphes. C'est à partir de ces premières gravures et de nombreuses gravures subséquentes que se crée l'imaginaire collectif européen par rapport à l'Amérique et aux Autochtones. Dans les premières gravures dépeignant les Autochtones selon la lettre de Colomb, ceux-ci sont représentés de façon enfantine, donc nus et sans poils, ils ont un peu un visage d'enfant. On peut ici voir l'émergence du mythe du bon sauvage. Et donc le mythe du bon sauvage, en fait, c'est le fait que les Autochtones seraient des hommes purs et non corrompus par la société qui vivraient dans l'état de nature. Cela permet à l'observation de Colomb, qui prétend que les Autochtones seraient comme des enfants, de se propager en Europe plus rapidement. En affirmant cela, on se permet ensuite de conclure que les Autochtones, de par leur état immature, seraient incapables de se gouverner eux-mêmes. À l'inverse, d'autres représentations des Autochtones insistent plutôt sur leur supposée barbarie et leur violence. Et on peut voir ça à travers justement des gravures de cannibalisme qui sont inspirées des lettres de Vespucci et qui font des Autochtones le symbole de la bestialité. Ça rend les Autochtones particulièrement effrayants pour le public européen, surtout évidemment lorsque ces scènes de cannibalisme incluent des victimes catholiques. De nombreuses images des pratiques violentes des Autochtones se mettent à circuler, ce qui choque les premiers colons et les consorts en Europe. Dans les deux cas cependant, donc autant dans le cas du bon sauvage que dans le cas du barbare violent, les Autochtones sont perçus comme étant de potentiels éventuels esclaves.
Donc, si on récapitule, Colomb arrive dans ce qui est aujourd'hui les Caraïbes avec 5 kilos d'armure et 3 couches de vêtements. Puis pour une raison bizarre, c'est pas lui qui est bizarre, mais c'est le monde qui sont là en short et pagne pour profiter du soleil. Lui assume qu'ils sont tout nus parce que pour lui, s'il voit des chevilles, c'est déjà la fin du monde. Il fait des petites représentations écrites. Il envoie ça par message électronique rapide à son boy Ferdinand d'Aragon. Ça prend 3-4 mois. Ils reçoivent ça à la cour d'Espagne. Tout le monde en parle comme si le roi était mort. Ça se propage partout. Et pour des raisons bizarres, des Allemands arrivent à tomber là-dessus, font des gravures, distribuent ça comme s'ils savaient de quoi ils parlaient. Et ça donne des représentations soit d'enfants complètement imbéciles, qui ne savent pas se gérer, ou au contraire, des sauvages imprudents qu'il faut absolument massacrer brutalement. Et au pire des cas, gagnant-gagnant, les deux peuvent être mis en esclavage et c'est pas mal ce qui va se passer par la suite, n'est-ce pas?
Ben oui, c'est à peu près ça. Puis évidemment, c'est les Européens qui sont rationnels, n'est-ce pas? Donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut se rappeler que les premières décennies de la colonie espagnole en Amérique du Sud sont marquées par cette rencontre qui apporte un changement de paradigme important dans la perception européenne. Au fil de la première moitié du 16e siècle, des conquistadors tels que Hernán Cortés et Francisco Pizarro, notamment, conquièrent ce qui sera le territoire de la Nouvelle-Espagne en Amérique. À cette époque, c'est l'empereur Charles Quint qui règne sur le territoire espagnol depuis 1520. Par un concours de circonstances, celui-ci est désormais le monarque non seulement des territoires espagnols de Castille, d'Aragon et des nouvelles colonies d'Amérique, mais également des Pays-Bas, de Hongrie, d'Autriche, de Naples, de Franche-Comté et du Sergue.
Le Sergue?
Le Saint-Empire romain germanique.
Ah, OK.
Ouais, il se met bien. C'est donc un empire immense qui fait de Charles Quint un monarque dont tous les autres princes et rois d'Europe se méfient et craignent. Charles Quint souhaite se positionner comme un souverain absolu sur ses territoires afin de centraliser le pouvoir dans sa personne unique et de marquer son autorité. C'est une entreprise difficile pour lui dans le contexte européen parce que ce dit contexte est marqué par des divisions entre les catholiques et les protestants sur les territoires impériaux, mais c'est également un modèle qui tarde à s'exporter dans le contexte des colonies en Amérique.
On n'a pas les mêmes problèmes.
En effet, dans les colonies espagnoles, on a établi assez rapidement un système que l'on a appelé le système des encomiendas. Techniquement, toutes les terres coloniales d'Amérique appartiennent à la couronne espagnole.
Donc à Charles.
Oui, donc à Charles. Mais celle-ci peut donner certaines terres à un colon, qui sera nommé encomendero, afin que celui-ci puisse exploiter ses terres.
Donc c'est Charles qui dit, toi je t'aime bien, je te donne un petit bout de terre, genre en Colombie ou au Mexique, puis fais ta vie avec.
Oui, à peu près. Mais, il y a un gros mais, en échange, le colon qu'on appelle encomendero s'engage à évangéliser et à éduquer les Autochtones qui s'y trouvent, qui deviennent ainsi une main-d'œuvre facile à esclavagiser. C'est donc une forme renouvelée du système de servage féodal qui avait lieu au Moyen Âge en Europe, qui se met en place. Sans surprise, ce système va ouvrir la porte à des abus et à des violences constantes contre les populations autochtones. On peut penser à des choses comme des meurtres de masse, des pendaisons après des rumeurs de rébellion par les Autochtones, à des viols et à plein d'autres choses. Le contexte Tepetlaustoc, qui est créé vers 1550, est un exemple de preuve de l'époque du traitement horrible des Autochtones par les encomenderos. Dans ce codex sont illustrés les abus des Autochtones de la région mexicaine de Tepetlaustoc aux mains des colons, avec des images sanglantes. Le codex fut probablement utilisé lors d'un procès contre les encomenderos devant le Conseil des Indes. Cela reflète donc le contexte de l'époque, qui mène à des revendications en Espagne pour abolir le système des encomiendas et protester contre les mauvais traitements des Autochtones. Donc même les gens en Europe sont absolument offusqués du traitement des Autochtones en Amérique. On reviendra sur ces considérations dans quelques minutes. Des « lois nouvelles » sont promulguées en 1542 pour abolir les encomiendas, protéger les autochtones et interdire l'esclavage. Cela aboutira à des révoltes des encomenderos, qui voulaient évidemment maintenir leurs privilèges et leur mainmise sur les autochtones, ce qui forcera Charles Quint à rétablir le système pour éviter des rébellions contre son autorité dans les colonies. Par ses tentatives, parfois infructueuses, d'imposer un modèle plus absolutiste dans les colonies, Charles Quint tente d'éviter le retour au modèle féodal atomisé qui mine l'autorité du vice-roi et, plus généralement, de l'empereur sur le territoire des Amériques, pouvant éventuellement mener à un déclin du pouvoir de la couronne espagnole. Parallèlement à l'instigation du moine Bartolomé de las Casas, on commence de plus en plus à s'insurger face aux traitements réservés aux Autochtones sous le système des encomiendas. Cela force la main à la couronne pour permettre de finalement se pencher plus spécifiquement sur ces questions d'administration coloniale en Amérique et la situation problématique vécue par les Autochtones.
Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles que rien dans l'histoire du monde ne laissait prévoir. Une de ces questions qui est de première importance n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici.
Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe, disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, peuvent avoir exagéré, sont parvenus à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement ému, d'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. À plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des Terres Nouvelles. Mais ces instructions, à ce qui semble, n'ont pas toujours été respectées, pas plus d'ailleurs que les lois et règlements de la couronne.
Aujourd'hui, le Saint-Père m'a envoyé jusqu'à vous avec une mission précise. Décider si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu, nos frères dans la descendance d'Adam, ou si, au contraire, comme on l'a soutenu, ils sont des êtres d'une catégorie distincte, voire même les sujets de l'empire du diable. À la fin de notre débat, la décision que je prendrai sera ipso facto confirmée par le Saint-Père et deviendra par conséquent irrévocable. Nous avons réuni ici, à Valladolid, dans ce couvent où frère Gregorio a eu la bonté de nous accueillir, quelques témoins et participants, et tout d'abord le très illustre frère Bartolomé de las Casas, qui connaît bien les terres nouvelles et qui plusieurs fois prit la défense de ses indigènes. En face, nous avons maître Sepulveda lui-même. Ses œuvres philosophiques sont très bien connues. Son érudition et la pénétration de son esprit nous seront précieuses. Si parmi vous, quelqu'un désire parler, qu'il le fasse savoir, en levant la main. J'espère que Dieu nous assistera et que par sa grâce, nous serons gardés toute conscience et dignité.
À la demande de l'empereur, on tient en 1550 à Valladolid une conférence sur le sort des peuples autochtones du Nouveau Monde. Devant un jury composé des membres de l'Église et des représentants de l'autorité royale, le rhéteur Juan Ginés de Sepúlveda et leur frère dominicain Bartolomé de las Casas, pardonnez mon espagnol, j'ai envie de faire ça tout de suite, débattent ardemment des relations à tenir avec les autochtones dans les colonies. Puis là, par débat, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils sont chacun venus sans se croiser, sans se parler, puis ils ont drop un text-to-speech de leur intervention pendant 3 à 5 ans. Ils ont vraiment juste lu leur doctrine, leur livre, un peu comme un vraiment mauvais prof d'université. Donc, contrairement à ce qui est souvent rapporté aussi, la controverse de Valladolid ne visait pas à déterminer si les peuples d'Amérique avaient une âme ou non. Ça aussi, c'est un indicateur si votre prof est bon ou pas. S'il vous dit ça, c'est que généralement, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que cette question avait déjà été tranchée en 1537 par la bulle papale de Paul III. Même le pape était rendu à dire « Non, mais arrêtez vos niaisages, les Autochtones ont une âme, ce sont des êtres humains, arrêtez de les massacrer. » Mais donc, cette dernière bulle papale interdisait et condamnait aussi l'esclavage des peuples autochtones. Mais les souverains catholiques ne sont pas convaincus. T'sais, ils sont comme « Ah, ben la Bible, elle est ambiguë, il y a le passage sur Cham, les termes que tu as utilisés ne sont pas clairs. » Ils font tout ce qu'il faut pour s'assurer de ne pas interpréter la chose, même si elle était très, très claire, et de pouvoir poursuivre leur exploitation des populations autochtones. N'en demeure pour moi que la question principale qui sera tranchée lors de la controverse de Valladolid, c'était de déterminer quelle sorte de colonisation devait être utilisée quand avec les Autochtones. La violence pour évangéliser de force et les esclavagiser, ou des relations pacifiques et durables avec des potentiels sujets de la couronne espagnole. Et ce qu'on voit se dessiner ici, en fait, c'est encore une fois l'opposition entre la vision du mythe du bon sauvage et la vision du barbare éternel.
On va commencer par parler d'un des deux personnages qui nous intéressent dans la controverse de Valladolid, Sepúlveda. Donc Sepúlveda, il faut le dire, utilise cet événement comme une vitrine pour augmenter sa visibilité et ses écrits. Un peu à la manière d'une célébrité has-been qui se pointe dans une télé-réalité pour se refaire un nom.
C'est un peu le Jordan Peterson de l'Espagne médiévale.
Oui, on va nommer personne. Hein? C'est avant tout un rhéteur, quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'art du discours et qui est là pour faire un show. Sa présentation prend d'ailleurs la forme d'une longue tirade ininterrompue de plus de 3 heures. Sepúlveda est un grand adepte des théories politiques d'Aristote. Il a écrit plusieurs traités politiques sur les gouvernements autochtones et espagnols et sur les conditions de mener des guerres justes. Évidemment, comme il n'est pas vraiment intéressé par la question, il ne fait que présenter une somme des arguments présents à son époque contre les Autochtones. Il faut savoir que Sepúlveda ne s'est jamais lui-même rendu en Amérique. Il utilise donc des représentations secondaires sur les Autochtones, comme des gravures ou des dessins, et des textes des conquistadors, afin de construire son argumentaire. Comme mentionné plus tôt, la plupart de ces exemples sont basés sur des sources exagérées, ou même dans le pire des cas, créées de toutes pièces. Sepúlveda insiste donc sur le fait que les Autochtones sont des cannibales, qu'ils font des sacrifices humains violents, ce qui attesterait de leur barbarie collective. L'idée est que si un peuple est déclaré barbare ou à la limite démoniaque, il devient tout à fait justifié de lui faire la guerre et de le soumettre. Deuxième chose, malgré la bulle papale de Paul III, il n'y a pas de consensus chez les catholiques autour de la question de l'interdiction de l'esclavage des Autochtones dans les colonies. Cela permet à la position de Sepúlveda d'être défendue, même d'une décennie plus tard. En se basant sur les écrits de Valdés et de son Histoire des Indiens, Sepúlveda catégorise les Autochtones comme des barbares qu'il considère inférieurs aux chrétiens et dépourvus de loi. Les Autochtones sont pour lui des esclaves naturels, comme le décrivait Aristote, c'est-à-dire des peuples qui se soumettent volontairement à des maîtres ou à des gouvernements tyranniques. Dans son Démocrates alter, Sepúlveda émet une distinction de nature entre les chrétiens et les Autochtones, et il fait dire à son personnage, et donc je vais le citer ici, « En sagesse, intelligence et en toutes sortes de vertus et sentiments humains, ils sont aussi inférieurs aux Espagnols que les enfants le sont aux adultes, les femmes aux hommes, les cruels et inhumains aux extrêmement doux et les excessivement intempérants aux continents immodérés. Finalement, je suis prêt à dire qu'ils sont inférieurs comme le sont les singes par rapport aux hommes. » Fin de la citation. Donc, on peut voir qu'il considère les Autochtones comme des homunculi, c'est-à-dire des demi-hommes. Il prend aussi en compte de l'absence d'un régime de propriété privée et de l'élection du roi comme des marqueurs d'infériorité politique et de servitude des Autochtones par rapport aux Européens. Sepúlveda peut donc caractériser les Autochtones comme des barbares et ainsi justifier de mener une guerre contre eux et d'employer la violence, puisque les Autochtones seraient considérés comme dangereux.
On remarque quand même que ce sont des thématiques qui ne sont pas complètement étrangères à ce qu'on va voir plus tard dans les prochains épisodes. Opposé à Sepúlveda, on retrouve Bartolomé de las Casas, qui sera régulièrement cité comme étant un grand défenseur de la cause autochtone. Et c'est pas complètement faux de le présenter ainsi, même s'il y a des nuances importantes à apporter. Bartolomé de Las Casas est avant tout un moine dominicain. Et sa différence, ce qui fait que son expérience est intéressante, c'est que lui va avoir un contact direct avec les peuples d'Amérique. En effet, la première fois que Bartolomé voit un autochtone, c'est pas dans un livre, c'est pas dans une gravure, c'est pas dans une représentation secondaire, mais c'est vraiment en chair et en os, lorsque son père, pour lui faire un espèce de bon cadeau de retour d'une expédition d'Amérique, lui rapporte littéralement un enfant autochtone comme une forme de curiosité. Mais c'est quand même une relation vivante que va entretenir Las Casas avec les autochtones d'Amérique. Une relation qui va l'amener, très jeune, à, d'une part, se rendre dans les colonies, mais aussi à vivre un profond bouleversement moral qui va le pousser à abandonner son statut et ses biens pour devenir un moine dominicain. Puis ça, ce serait la version officielle. Donc Las Casas vit un bouleversement en Amérique, réalise que le traitement est absolument inhumain et cruel, décide de les défendre. En vérité, et de manière peut-être plus nuancée et proche de la réalité, Las Casas va toujours demeurer dans une entreprise de conquête, la différence que lui veut que son entreprise politique soit plus pacifique et moins violente. Comme nous allons le voir, l'objectif de Las Casas dans son plaidoyer et dans ses écrits est de convaincre la monarchie espagnole à intégrer les autochtones dans le giron du christianisme et à augmenter les rangs des sujets espagnols. Donc à Valladolid, Las Casas va faire une lecture étendue de son histoire des Indes, qui est en contradiction avec celle de Valdés, avec de nombreux passages sur les massacres et les horreurs commises par les conquistadors espagnols. Son entreprise est avant tout rhétorique et ne s'inquiète pas d'utiliser des largesses et des exagérations parce que le portrait que fait Las Casas des Amériques est vraiment celui d'une terre vierge, pure, non touchée par la corruption de la société et où vivent en paix des peuples doux et agréables. Las Casas propose ici une vision politique dans laquelle l'être humain est pur par nature et c'est la société qui le corrompt. En manifestant les crimes commis par les conquistadors, ce qu'il va proposer, c'est une critique de sa propre société et de ses mœurs.
Las Casas saute donc à pieds joints dans ce qui deviendra le mythe du bon sauvage. Donc, si vous connaissez un peu le mythe, vous voyez que c'est exactement le même genre de rhétorique que reprend Las Casas. Il décrit les Autochtones comme des êtres nobles et purs, sans méchanceté. On le remarque facilement dans les écrits qui sont extrêmement condescendants, mais remplis de la bonne foi la plus paternaliste possible. Donc, je vais citer ici Las Casas, il dit « Tous ces peuples universels et innombrables, Dieu les a créés extrêmement simples, sans méchanceté ni duplicité. » Très obéissants et très fidèles à leur seigneur naturel et aux chrétiens qu'ils servent, les plus humbles, les plus patients, les plus pacifiques et tranquilles qu'ils soient au monde, sans rancune et sans tapage, ni violents ni querelleurs, sans rancœur, sans haine, sans désir de vengeance. » Fin de la citation. Bref, ce seraient des sujets idéaux de la couronne espagnole qui voulait accéder au christianisme et à l'évangélisation. Ça, c'est évidemment selon Las Casas. Il porte le blâme sur la cupidité et la cruauté des colons espagnols, qui, dans leur recherche obsessive d'or et de métaux précieux, tuent et maltraitent les populations autochtones. Il est l'instigateur d'une critique qui se propage rapidement autour de la façon dont les Espagnols se comportent en Amérique. Dans son réquisitoire contre les abus de la colonisation, intitulé « Très brève relation de la destruction des Indes », Las Casas fait le portrait des abus atroces commis par les colons contre les autochtones. Les illustrations associées, dépeignant les massacres, les pendaisons de groupes et même les meurtres violents de bébés, circule également et participe à offusquer l'opinion publique en Europe. Dans le même état d'esprit, Las Casas s'évertue à démontrer que les peuples d'Amérique ne sont pas des barbares, en cela qu'ils sont pacifiques, simples, humbles et serviables. Cette ouverture et acceptation contrastent énormément avec l'absence totale de morale dont ont fait preuve les conquistadors, qui n'ont pas hésité à violer, piller, tuer, mutiler gratuitement les peuples autochtones. Las Casas va donc répondre aux accusations de barbarie et aux qualifications d'homunculi, donc on rappelle, ça veut dire demi-homme, de Sepúlveda, en lui retournant les arguments d'Aristote. Las Casas soutient que les Autochtones sont des êtres raisonnables et non des bêtes. D'abord, les Autochtones sont des peuples grégaires et sociaux, avec une organisation complexe, donc ils ne sauraient être assimilés à des simples d'esprit ou à des barbares. Ensuite, les sacrifices humains sont pour lui surtout le signe d'une grande religiosité. Je vais en profiter ici pour peut-être ouvrir une parenthèse rapide sur le relativisme culturel, soit le concept qui soutient que les croyances humaines et les pratiques qui y sont associées doivent toujours être analysées du point de vue de la culture dans laquelle elles se trouvent et non pas d'un point de vue supposément objectif. Ça veut dire que quelque chose qui pourrait être complètement inconcevable pour une culture peut être très normal et très accepté pour une autre. Et il n'y a pas quelque chose qui serait mieux que l'autre. C'est l'argument que va utiliser Las Casas ici contre l'association immédiate entre barbarie et sacrifice humain. Et c'est un concept déjà existant chez les philosophes grecs qui sera par la suite réutilisé. Montaigne est souvent cité comme une figure importante du relativisme culturel dans le contexte moderne et selon lui, je vais le citer, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». Ce relativisme culturel permet aussi une critique de sa propre société en réalisant le relativisme de nos propres pratiques, ce qui est essentiel dans l'argumentaire construit par Las Casas. Évidemment, il est incapable de pousser le relativisme culturel plus loin que cette critique de la barbarie pour critiquer ses propres préconçus basés sur la supposée simplicité des Autochtones. C'est la fin de la parenthèse sur le relativisme culturel.
Las Casas procède donc de manière astucieuse pour contrer Sepúlveda. Dans un premier temps, il va reconnaître la doctrine aristotélicienne de la servitude naturelle. Mais dans un second temps, il va en faire une interprétation plus large afin de pouvoir émettre des distinctions appropriées entre ce qu'il considère être de vrais barbares, encore une fois les musulmans. Et à la fin, Las Casas va utiliser la doctrine d'Aristote, qui est une doctrine païenne, il faut le rappeler, là on parle d'un moine chrétien, et il va la soumettre à l'autorité de l'Évangile et aux valeurs portées par le christianisme. Donc, pour Las Casas, Sepúlveda a tort en deux temps. Premièrement, parce qu'il utilise mal la doctrine d'Aristote, il en fait une interprétation trop restrictive, et dans un second temps, parce qu'il ne se soumet pas à l'autorité du moment, qui est l'Évangile, qui supplante, bien entendu, les textes grecs païens. Mais donc, quelles vont être les conséquences et les suites de cette controverse, ainsi que de toutes ces discussions très, très animées à l'époque, il faut le dire, sur le sort à réserver aux Autochtones et au type de colonisation à émettre sur les nouveaux territoires? Eh bien, la controverse de Valladolid en tant que telle ne va pas trancher la question de la condition autochtone et non plus déterminer de vainqueur. Sepúlveda et Las Casas vont tous deux partir en croyant avoir remporté le débat. Toutefois, la réalité est que la vision de Las Casas va grandement influencer les politiques coloniales de Charles Quint ainsi que la pensée de l'Europe moderne, et ce, même avant la controverse de Valladolid. Il faut noter qu'au moment même de la controverse, Las Casas était déjà une figure politique réputée et respectée par l'empereur et avait déjà été l'un des rédacteurs du nouveau code de loi colonial. Sepúlveda, quant à lui, va carrément voir ses traités et textes politiques censurés par les grands woke que sont Las Casas et Charles Quint parce qu'ils continuent de considérer les Autochtones comme des homonculis, des demi-hommes, à qui la meilleure solution est de mener une guerre entre guillemets juste.
Certains vont aussi voir Valladolid comme étant la pierre d'assise de la justification de l'esclavage des personnes noires. Selon ces personnes, beaucoup de débats et de discussions ont eu lieu autour de la question autochtone à l'époque, mais très peu autour de la question des personnes noires. Cela aurait donc donné le champ libre à l'esclavage des personnes noires, qui n'avaient pas formellement été établis comme des humains dignes de dignité, comme on pouvait plus esclavagiser les Autochtones dans les colonies. L'esclavage à cette époque est une question économique et politique plutôt qu'une question raciale. Dans le cas de la colonisation des Amériques, l'attrait des esclaves noirs en Afrique par les Portugais est avéré depuis le 15e siècle. La main-d'œuvre esclave utilisée au Brésil augmente exponentiellement entre 1570 et 1620. Les Portugais vendent des esclaves aux Espagnols afin de remplacer l'impossibilité de mettre des Autochtones en esclavage et de s'assurer d'avoir une main-d'œuvre pour les plantations et les mines. L'augmentation de la traite des esclaves noirs dans l'Atlantique post-Valladolid n'est donc pas directement corrélée à la conférence elle-même, mais peut tout de même être comprise comme une conséquence de la nouvelle politique envers les Autochtones d'Amérique. Si on se déplace sur le plan légal maintenant, comme on l'a mentionné, les lois nouvelles avaient déjà été promulguées par Charles Quint près de 10 ans plus tôt, donc 10 ans avant la conférence, en 1542, pour améliorer la condition des Autochtones sous l'insistance de Las Casas. Ces lois-là, elles interdisent notamment la violence envers les Autochtones, elles abolissent le système des encomiendas et elles limitent les abus de travail. Or, comme on l'a vu, ce système est difficile à mettre en place et les encomiendas, de même que les abus qui les caractérisent, demeurent en place même après la promulgation de ces lois nouvelles. Ce sont d'ailleurs ces lois qui participent à la nécessité de la conférence de Valladolid afin de trancher une bonne fois pour toutes sur le genre de traitement qui devait être réservé aux Autochtones, soumis à de nombreux sévices corporels et à de nombreux abus sous le système des encomiendas. Après la conférence de Valladolid, la couronne espagnole continuera ses avancées vers un traitement relativement plus humain, très relativement, des populations autochtones, malgré la persistance des abus physiques, de travail forcé et de nombreux mauvais traitements. Donc, quand on parle de relativement plus humain, c'est extrêmement relativement. Cependant, Las Casas continuera d'être un fervent défenseur des droits des Autochtones à travers ses dénonciations constantes du traitement réservé aux Autochtones. La publication de son ouvrage emblématique, dont on a déjà parlé, Très brève relation de la destruction des Indes, en 1552, donc 2 ans après la conférence à Valladolid, participera grandement à la légende noire de l'Espagne. Donc, la légende noire de l'Espagne, c'est l'idée selon laquelle l'Espagne était considérée comme un pays arriéré et moyenâgeux dans sa moralité coloniale, et ça permettait aux autres puissances coloniales d'attirer l'attention sur les abus espagnols en évitant soigneusement de se pencher sur leurs propres abus dans leurs propres colonies. Et loin de nous l'idée de vouloir défendre la colonisation espagnole, qui a tout de même été extrêmement meurtrière et problématique, mais on trouvait important de souligner quand même à quel point il est ironique que les Anglais, éventuellement les Canadiens par exemple, se permettent de critiquer les politiques autochtones des Espagnols en Amérique du Sud, alors qu'ils édictent des lois génocidaires et assimilatrices en Amérique du Nord, qui ont fait en sorte que la population autochtone restante dans leur colonie soit significativement moins nombreuse que celle de l'Amérique du Sud.
Avec tout ça, on peut clairement se demander pourquoi est-ce qu'on ouvre notre série en parlant d'un vieux débat de curé du 16e siècle, en espagnol, alors qu'on est là finalement pour parler de racisme et de colonisation. Eh bien, c'est parce que les théories de Las Casas, bien que sur plusieurs plans, ont eu des effets bénéfiques sur les populations indigènes d'Amérique centrale et du Sud, vont planter le germe de théories politiques et scientifiques beaucoup plus dangereuses pour la suite. En effet, dans sa grande entreprise rhétorique de défense des indigènes, Las Casas va systématiquement commettre une fallacie majeure, l'essentialisation des peuples. Les indigènes, chez Las Casas, ont des attributs et des qualités fixes et définitives. Ils sont paisibles, ils sont pacifiques, ils sont sociaux et grégaires. Par ce fait, Las Casas n'est certainement pas le premier raciste de l'histoire, mais il en est certainement le premier racialiste. Il englobe des populations très différentes, sous un même chapeau, à travers un ethos, c'est-à-dire un état d'être et d'exister, plutôt que par leur régime politique ou religieux, comme a pu le faire Aristote, par exemple. On n'a pas ici la prétention de dire que l'essentialisation des races et que le racisme lui-même naissent exactement au moment de la controverse de Valladolid, puisqu'on peut en retracer certains exemples au Moyen-Âge. Mais c'est à partir de ce moment que la racialisation des peuples va réellement commencer à se propager et à se généraliser. Ce débat se situe aussi dans un point de bascule pour le monde européen qui va voir ses richesses et son pouvoir d'exploitation augmenter de manière faramineuse dans les siècles suivants. Cette amélioration économique et politique ne sera possible que par l'exploitation effrénée de populations non européennes qui plus tard deviendront des populations non blanches. Valladolid nous offre peut-être le premier exemple de justification de cette exploitation par des théories proprement raciales, procédé qui est la pierre angulaire du racisme. Un dernier élément qu'on aimerait soulever est le fait que toutes ces questions sur la nature des Autochtones, sur le fait qu'ils aient une âme ou pas, sur leurs pratiques, vont éventuellement se retourner contre les populations qui occupent et qui habitent déjà l'Europe. Par exemple, on peut penser aux Juifs restants en Espagne qui, graduellement, vont voir émerger autour d'eux des questions sur leur nature, sur la possibilité pour eux de rester de vrais chrétiens ou de s'intégrer réellement au mode de vie européen. Et c'est exactement ce qu'on souhaite explorer dans les épisodes à venir, en donnant à cet épisode un peu le point de départ que sera ce grand survol de l'histoire du racisme.
Pour cet épisode, on aimerait remercier grandement Sébastien Ferrero, qui est chargé de cours au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, pour les sources et les recommandations qu'il nous a envoyées sur les questions spécifiquement de l'arrivée des colons en Amérique et surtout par rapport aux représentations des Autochtones, et aussi pour nous avoir orientés sur la piste du relativisme culturel. Toutes les sources qu'on a utilisées dans cet épisode sont disponibles de prime abord sur le site du podcast. Et si elles n'y sont pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel du podcast et on vous les enverra si ça vous intéresse. On vous remercie grandement pour votre écoute et on souhaite vous retrouver pour le prochain épisode qui portera sur les premiers systèmes racistes au 18e et au 19e siècle.
Madame, je jalouse souvent qui vous caresse, prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, souvent suaves et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse souvent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname,